Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss matinée de Morning Bull Live. Nous sommes le 5 août 2023 et après quelques jours d'absence, quelques péripéties dont je vous passerai les détails pour traverser l'Europe, pour arriver sans bagage et pour se retrouver sans connexion. Bref, deux, trois aventures un peu cocasses. Finalement, je suis quand même là pour vous faire un petit point de situation sur ce qui se passe aujourd'hui dans les marchés financiers, spécifiquement en Suisse. On va parler un peu de la Suisse, mais aussi un peu de l'étranger. Enfin, faire un point pour attaquer une nouvelle semaine normale à partir de lundi matin. Alors, on va appeler ça Swiss Bliss, on appellera ça un Morning Bull Weekly, peu importe comme vous voulez. On va juste faire le tour de la situation, regarder un peu où on en est et voir ce qu'il y a à dire de tout ça et observer quelques graphiques. Le point le plus important de la semaine, bien évidemment, c'est le downgrade de la note des États-Unis. Donc on est passé de AAA chez Fitch à BB+. Alors, une grosse panique aux États-Unis, énorme scandale bien sûr, parce que c'est pas le genre à vraiment supporter ce genre d'accusation ou de reproche. Finalement, on leur dit que la qualité de leur dette est moins bonne et ça choque les investisseurs, ça choque le marché américain bien sûr, parce que ils n'ont pas envie d'entendre ça. Pourtant, on peut quand même se dire que vu ce qui s'est passé comme, allez, bordel depuis le début de l'année avec la dette américaine qui va nous retomber dessus dans 2 ans lors des prochaines élections américaines, enfin après que le nouveau président qui arrivera au pouvoir, on a quand même de quoi s'inquiéter sur la qualité de la dette. On voit que le crédit augmente de manière conséquente, on voit que les gens sont endettés jusqu'au cou pour pouvoir consommer et pour pouvoir maintenir cette espèce de machine de consommation et de croissance qu'est le consommateur américain. Et à côté de tout ça, eh bien, tout d'un coup, on est choqué parce qu'un organisme de rating viendrait downgrader la dette. Alors, c'est un scandale qui a un tout petit peu choqué le marché en ce début de semaine, en ce début de mois d'août. On va dire que c'est pas une grosse surprise, on va dire que c'est pas non plus choquant, et puis on va dire qu'on est tous conscients du fait que le fait que de dire que la dette américaine était solide, ça reste du pipeau principalement. Bref, c'est une prise de conscience qui n'a pas forcément fait plaisir au marché et qui a déclenché un petit peu cette prise de profit. Alors, il faut bien être honnête, hein, quand on voit ce qu'on reproche aujourd'hui aux États-Unis en termes de dette, ce n'est pas une surprise. Personne n'est choqué, personne ne se dit « Ouh, il y a un truc nouveau qui est sorti ». Simplement qu'aujourd'hui, vu à l'altitude où nous nous trouvons sur les indices, eh bien, ça paraît plutôt logique que l'on puisse simplement prendre les profits. Et puis, c'est la première occasion, on saute dessus pour vendre le marché. C'est plutôt ce qui s'est passé en liaison avec la dette américaine et ce downgrade de chez Fitch. Autrement, les publications du trimestre, eh bien, ça continue. Alors, si on peut qualifier tout ça, eh bien, on dira, bah, ça va, les gars, c'est bon, tout va bien. Je dois vous dire que ma plus grosse crainte depuis des mois, vous le savez, c'était de voir qu'on se retrouve finalement face à une situation où on avait des attentes qui étaient extrêmement élevées et que le marché n'arrivait pas à les matcher. Bah non, finalement, ça va plutôt pas mal. On l'a encore vu cette semaine avec un exemple assez frappant qui est Amazon, qui a juste pulvérisé les attentes, surtout au niveau du cloud. Donc tout le monde a trouvé ça absolument fantastique. Alors Amazon, qui était juste la daube de service depuis quelques semaines, tout le monde revient dessus. Le titre prenait 9% vendredi pour fêter ça. C'est un peu comme Facebook, hein. On a détesté Facebook, enfin Meta, pardon, excusez-moi, Meta Platform pendant des mois. Puis tout d'un coup, depuis le mois de novembre, bah, Meta est reparti comme en 40. Depuis quelques temps, Amazon fait pareil. Là, on confirmait, on strikait le deal et le titre explosait en fin de semaine. Apple a sorti des très bons chiffres aussi en dessus des attentes. Il n'y a rien à dire. Mais alors là, attention, Apple, on avait un autre petit problème. C'est que, en fait, les gens, ils ont peur que peut-être, éventuellement, tout ça au conditionnel, mais c'est même pas sûr, eh bien, le prochain trimestre, ça soit pas facile. Alors le problème, c'est qu'effectivement, ça pourrait ne pas être facile, mais on n'en sait foutrement rien. Chose est-il que les gens là aussi ont pris des profits, le titre est au plus haut de tous les temps, blablabla, on connaît l'histoire. Donc bon chiffre d'Apple, c'est ce qu'il faut retenir, mais mauvaise interprétation de la part du public qui se méfie de ce qui pourrait éventuellement peut-être se passer. Résultat, eh bien, les chiffres sont bons. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir globalement, c'est que les chiffres de ce trimestre sont bons. Aujourd'hui, on arrive sur la fin de saison. Bien sûr, il y aura encore pas mal de publications d'ici la fin du mois d'août, hein, puisque je crois que même Nvidia publiera pour clôturer plutôt ce feu d'artifice. Nvidia doit venir publier en toute fin de mois d'août. Donc, du coup, on a encore de quoi en parler. Mais globalement, les plus grands noms sont sortis. Ceux qui pouvaient éventuellement peut-être nous coûter quelque chose sont sortis. Donc on va dire que pour l'instant, on va attendre paisiblement la suite des événements, mais il ne devrait pas y avoir de grosses surprises. Ce n'est pas un chiffre trimestriel dont il faut parler, mais on peut quand même en parler un tout petit peu. C'est Tupperware qui a publié, qui a trouvé un accord pour la restructuration de sa dette. Et puis, dans la foulée, le titre a pris 90%. Ouais, c'est juste pour fêter ça. C'est rien, c'est pas grave. C'est juste que encore c'est un même stock, hein, donc tout le monde a assez sauté dessus. La boîte est toujours au bord de la faillite. Vous connaissez le principe de Tupperware. Ça intéresse plus personne aujourd'hui, mais ils ont quand même trouvé une solution pour restructurer leur dette. Et puis, eh ben, le titre a pris de 90%. On dit bon, ça fait plus de 600 ou 700% de hausse depuis que on a commencé à s'exciter dessus. Donc on repart un tout petit peu dans les délires. Ce qui est rassurant, hein, parce que finalement, on voit que tout ce qu'on a appris il y a 2 ans dans la phase des mêmes stocks, eh bien, on a tout oublié, comme d'habitude. Et puis alors, on a les chiffres économiques. Alors les chiffres économiques, ça reste aussi quelque chose de très important, puisque vous le savez, depuis la semaine dernière, la semaine d'avant, en fait, où toutes les banques centrales sont venues nous dire « Oui, alors on va faire ci, on va faire ça », ben nous, les experts en finance, eh bien, on s'attache au fait de se dire « Ok, alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer en fonction des chiffres économiques et comment est-ce que les banques centrales, la Fed, la BCE, la BOJ, la Banque d'Angleterre, la BNS, etc., vont-ils réagir en fonction de ces prochains chiffres macro ?» Alors, on a eu les quelques chiffres macro qui sont sortis aux États-Unis ces derniers temps, surtout cette semaine, et on a eu un gros chiffre important, et c'était absolument, j'ai envie de dire, hilarant, de regarder les commentaires derrière. Alors, on a eu un chiffre, donc les non-farm payrolls, hein, vous connaissez, les chiffres de l'emploi qui sont sortis vendredi dernier. On attendait grosso modo 184 000 pour les plus pessimistes et 200 000 pour les plus optimistes. Création d'emplois pour le mois de juillet. Et c'est sorti à 187 000, donc on va dire au milieu du range. On constate quoi ? Eh bien, on constate que globalement, le marché de l'emploi ralentit, ça engage un tout petit peu moins que prévu. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce que finalement, on savait que la Fed espère que ce genre de choses se produisent, et pour étant pour preuve le fait que leur système fonctionne. Donc, on est content. On est content que ça voudrait dire que potentiellement, la Fed pourrait envisager de ne plus monter les taux lors de la prochaine réunion du FOMC meeting le 20 septembre prochain. Sauf que, au milieu des chiffres des non-farm payrolls, on apprend quoi ? Que le taux de chômage diminue et qu'en même temps, le niveau des salaires augmente. Donc, ils engagent moins, mais les gens qui sont engagés, ils les payent plus. Et donc, si vous payez plus les gens, eh bien, forcément, ça fait monter l'inflation. Et donc, du coup, alors, on se dit, oui, mais alors, si ça fait monter l'inflation, peut-être que lors du prochain FOMC meeting du 20 septembre, la Fed pourrait penser différemment et ne pas renoncer à monter les taux, mais vouloir encore monter les taux, justement, pour freiner cette éventuelle inflation qui pourrait être créée par ces augmentations de salaires injustifiées. Ou en tout cas, justifiées pour ceux qui les touchent, mais injustifiées pour les investisseurs et le système économique. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation à nouveau assez atypique, puisque d'un côté, vous avez un chiffre qui est pas très bon, donc rassurant pour la Fed, mais à l'intérieur de ce même chiffre, vous avez autre chose qui est très bon et pas forcément positif pour l'avenir de la Fed. Bref, comme d'habitude, il y a une chance sur deux que la Fed fasse quelque chose de bien et une chance sur deux que la Fed fasse quelque chose de mal. Résultat, il faudra attendre les prochains chiffres économiques. Ça tombe bien parce que la semaine prochaine, je crois qu'il y a 2-3 trucs sur l'inflation également. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir cette semaine, c'est que le marché s'est un peu écrasé, calmé, revenu en arrière. Alors, c'est pas non plus des catastrophes, hein, on va le voir sur les performances et sur les graphiques dans quelques instants, mais quand même, on a de nouveau 2-3 doutes qui se pointent. Pourtant, globalement, tout va bien. Économiquement, ça se passe plutôt pas mal. Les résultats du trimestre sont plutôt pas mal. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça fonctionne toujours plutôt bien. On commence à se demander quels seraient les catalystes qui permettraient d'aller chercher beaucoup, beaucoup plus haut, parce que on sent quand même que tout le monde est en train de se dire « Est-ce que ça va suffire ? Ça va suffire ?» Ce qui est positif dans tout ça, c'est que vous avez de nouveau, enfin positif ou négatif, ça dépend si on est contrariant ou pas, vous avez quand même de plus en plus de gens qui sont en train de tourner la veste. Hein. Vous vous souvenez, depuis quelques semaines, je vous dis « Oui, tous les gourous sont négatifs, tout le monde dit qu'on va s'en prendre une, tout le monde dit qu'on va avoir une récession. » Et là, petit à petit, tous les convaincus de la récession sont en train de tourner la veste. Hein. Ils sont en train de se convertir. Et on a encore eu, en fin de semaine, JP Morgan, qui était ultra convaincu qu'on aurait une récession en 2023, qui sont en train de dire que « Ouais, non, mais 2023, ça va pas le faire. » Mais bon, on n'exclut pas qu'on reviendra sur le sujet en 2024. Néanmoins, ils sont en train de tourner la veste. Donc ça fait un de plus qui est en train de nous dire « Ouais, finalement, je suis moins bearish que j'ai été bearish jusque-là, donc maintenant, il faut juste aller avec la tendance. » Alors, deux choses l'une, hein, soit c'est une bonne nouvelle parce que tout le monde est en train d'aller avec la tendance et que donc, ça va continuer à monter, Ou alors, c'est simplement qu'on est en train de devenir tous ultra bullish et quand tout le monde sera ultra bullish, quand votre chauffeur de taxi vous dira ce qu'il faut acheter, quand votre garçon de café commencera à ouvrir des comptes sur les plateformes de trading et vous donnera des conseils lorsque vous irez manger à ses côtés, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez commencer à vous dire qu'on est en train d'exagérer à la hausse. Mais pour l'instant, eh bien, tout le monde est en train gentiment de prendre le même train en direction de la hausse. Et c'est assez symptomatique parce que vous avez de plus en plus de gens qui tournent la veste. Mais en même temps, c'est la première semaine depuis 3 semaines où finalement, on n'arrive pas à terminer dans le vert. Ce qui nous amène donc aux performances du mois de cette semaine-là qui vient de se terminer. Donc, vous le voyez, tout d'abord, ce qu'il faudra retenir dans le sens négatif, c'est le SOX qui est la pire performance de notre liste pour la semaine, hein, -4%. Donc, on sent qu'il y a quand même pas mal de pression sur les semi-conducteurs. Et puis après, le reste, eh bien, ça suit dans l'ordre, hein. Le DAX qui s'est fait allumer parce qu'ils étaient au plus haut de tous les temps, prise de profit. Le Nasdaq, pareil, on revient en bas du trend, on va le voir sur le graphique. Et après, le S&P, -2,27%. Le Dow, -25%. Bon, vu les performances là, depuis le début de l'année, eh bien, ça va. Si on regarde le CAC 40, -2,16%, on est revenu dans le trend descendant, on va le voir tout à l'heure. La Suisse, -1,94%. Alors, on fait moins pire que les autres, mais en même temps, quand ça monte, on monte pas, donc c'est toujours un petit peu pénible. Et puis, le Bitcoin qui se traîne, l'or qui n'arrive pas définitivement à passer les 2000. Et puis, on terminera surtout, et très important, et on conclura d'ailleurs cette émission avec ça, c'est le pétrole qui termine en hausse de 2,56%. Et là, à mon avis, on va commencer à se faire du souci. Puisqu'on est quand même un peu dans le Swiss Bliss, faisons un point sur les performances de la semaine. Sika en tête, +2,8% sur le SMI. Et Swisscom à la casse, -6,35%. On va y revenir tout à l'heure. Puis autrement, bah, le reste, Swissre qui a publié des bons chiffres, mais qui n'ont pas satisfait l'indice. Nestlé qui perd 3%. Roche et Novartis qui se tirent la bourre à -1,5% plus ou moins. Bref, une petite semaine qu'on préférera oublier probablement sur le marché suisse. Ok, on passe donc sur l'analyse technique, le point technique plutôt, la photo technique des marchés avec le SMI. On commence tout de suite avec notre trend de base qui est donc toujours bien présent. Vous voyez nos 3 cercles ici. On n'est pas revenu tester les bas du range pour l'instant à 10 700, mais on termine la semaine à 11 098 avec un joli petit reversal qui est plutôt optimisme en termes de trading. Mais autrement, pas rien de spécial à signaler si ce n'est effectivement une mauvaise semaine. Puisque la semaine dernière, on titillait les 11 400 et que cette semaine, on peine à rester en dessus des 11 100 sur le SMI. On oscille toujours dans cette zone autour de ces deux moyennes mobiles, hein, que la 50 ici et la 200 là. Et c'est vraiment la question, est-ce qu'on arrive à terminer la semaine en dessus ou en dessous? On espère qu'on y verra un peu plus clair la semaine prochaine, mais ça reste quand même un tout petit peu crispé pour l'instant, avec peu d'engouement, en tout cas, sur les titres suisses. Pour ce qui est de nos amis français et voisins, le CAC 40 est toujours en train de se battre avec cette tendance baissière, qui est très très bien dessinée avec nos deux barres rouges ici et là. Vous voyez qu'on est revenu de nouveau en dessous de cette tendance, à l'intérieur de cette tendance. On était bien sorti la semaine dernière. Ça représente un petit peu la même chose sur tous les indices. Hein. Pour l'instant, on était bien sorti la semaine dernière et cette semaine, on est retourné dans le range parce que la dynamique américaine n'a pas suffi à continuer. Au niveau du DAX, le DAX, eh bien, pareil, je vous en parlais tout à l'heure, on a tapé les plus hauts et puis on est revenu en dessous du support. Alors pour l'instant, bah, notre objectif, c'est toujours de retourner là-bas. Mais on voit qu'on a échoué et c'est marrant encore une fois. Alors, on a été chercher un plus haut historique, ça c'est clair. Mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on est venu en dessus, autour des 16 400, à chaque fois on a eu des volumes vendeurs absolument monstrueux qui remettent l'indice quasiment 600, 700 points plus bas avant d'essayer de repartir. Alors, je sais pas à quel niveau on va venir se repositionner long sur le DAX. Est-ce qu'il faudra se dire qu'on va peut-être faire quelque chose de constructif à partir de là? J'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est vrai que le DAX a l'air de vouloir continuer à traiter pour l'instant dans ce range sans réussir vraiment à sortir. ni par le haut ni par le bas. Donc ça, c'est le point sur le DAX. Si on regarde le S&P 500, alors on était sorti brièvement de cette tendance qui vient par là. Hein, donc c'est cette grande tendance. On était sorti par le haut, on revient dessous. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on avait cette accélération qui s'est cassée. On a cassé le momentum en revenant dedans. On va aller chercher probablement les 50 jours ici. Et puis après, on va voir si on est en train de revenir sur cette tendance de base qu'on avait là, pour espérer partir à la hausse. Mais enfin, pour l'instant, ça dépendra bien sûr des résultats, des chiffres économiques et des interprétations que nous en faisons. Sur le Nasdaq, on a toujours cette tendance de base. Hein. Donc, comme on l'a dit hier, il y a eu à boire et à manger au niveau des technos. Apple a pesé fortement sur le secteur la semaine dernière avec sa baisse après la publication des résultats. Microsoft continue d'être un peu à la peine. Google ne monte plus, il avait fait son move avant. Donc c'est clair que dans cet environnement-là, quand vous avez ce genre de choses, eh bien pour l'instant, on fait une petite pause sur le secteur techno. Au niveau du Nasdaq, il faudra bien sûr surveiller le bas de la tendance qui va plus ou moins être corrélé avec la moyenne mobile des 50 jours. Donc surveillez bien les 15 200, qui devrait être un point d'inflexion important pour qu'on ne le casse pas à la baisse. Sinon, ça pourrait être un danger de nous voir sortir par ici. Et pour l'instant, on a encore bon espoir que ça tienne le coup. Semi-conducteur index, pression un peu sur la tech. Donc, qui dit pression sur la tech, dit pression sur les semi-conducteurs. Nous, on regardera de toute façon cette zone-là, qui est la zone des 3640 sur le 3600 sur le SOX. Tant que cette zone-là tient, c'est plutôt encourageant. Bien sûr, on aurait préféré rester dans la tendance haussière qu'on avait là-bas. Mais pour l'instant, on bagarre ici. On a AMD qui a bien tenu la semaine dernière. Donc, on peut continuer à se dire que ça va. Personnellement, si on avait le SOX qui venait se casser aussi en dessous des 3600, ça commence à glisser ici. Il faudra faire attention parce que vous l'avez vu, ce genre de configuration haussière, vont très vite. Autant ce genre de configuration baissière vont très vite également. Donc, il faudra se méfier des éventuelles ruptures de support à la baisse. Mais pour ça, il faudra un catalyseur un peu plus violent sur les indices. Petit point extrêmement rapide sur l'état de l'économie suisse. Il y a quelques chiffres qui sont sortis la semaine dernière. Alors, on a eu quand même l'Office fédéral de la statistique qui nous a dit que grosso modo, les bénéfices, les revenus du secteur tertiaire s'étaient un petit peu dégradés, que finalement, l'économie, elle va bien, mais elle a de la peine. Et puis que grosso modo, eh bien, on voit que la confiance du consommateur, l'humeur du consommateur suisse, s'est un petit peu améliorée, bien qu'elle reste en dessous de la moyenne habituelle. Alors, l'effet de base principal, c'est on nous dit « Oui, l'inflation fait souffrir le consommateur en Suisse ». Alors, on peut discuter, hein, parce que nous, avec nos 1,9% d'inflation en Suisse, on peut quand même se dire « Est-ce que réellement, on a le droit de la ramener par rapport à d'autres pays qui sont à 8, 9 ou 10% d'inflation ?» Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est quand même le thème de base. Il est vrai que néanmoins, ça pose quand même de toute façon des problèmes, ne serait-ce que sur la thématique pétrolière. Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Dans les vedettes de la semaine, eh bien, on notera, pas forcément dans le bon sens, mais on notera quand même la sous-performance de Richemont, la sous-performance de Swatch, et puis, dans un sens plus large, la sous-performance du secteur du luxe en général, puisque en ce moment, eh bien, les gens sont très, très, pas négatifs, mais on voit quand même que cet éventuel léger ralentissement que l'on constate aux États-Unis pourrait quand même poser un petit peu problème au secteur du luxe. Parce que même du coup, il semblerait que certains très très riches hésitent à acheter un sac Hermès par semaine. Donc forcément, ça risque de mettre un peu la pression sur les résultats. En gros, cette semaine, on a quand même constaté que Richemont et Swatch continuent de souffrir pas mal de cette thématique négative. C'est assez bien représenté par le graphique de Richemont qui, vous le voyez, est en train de revenir dangereusement sur la moyenne mobile des 200 jours. Au niveau des 135 francs, et ce serait quand même plutôt rassurant si on pouvait éviter de venir la casser. Là aussi, vous le voyez sur Swatch, alors là, on est revenu gentiment sur le bas du range, cet immense range dans lequel nous sommes, sur la zone des 264-265. Donc pour ceux qui ont envie de jouer quelque chose, il faudra se préparer peut-être à remettre les pieds dedans sur les 265 francs suisses, sur la Swatch Porter, en se disant que potentiellement, on va continuer à remonter tranquillement. Alors, faut pas non plus s'attendre à qu'elle nous fasse un truc comme ça, mais par contre, peut-être qu'on va construire sur le long terme. Ce sera pas forcément le truc le plus sexy, ce sera pas des performances à la Tupperware, Mais ce sera quand même peut-être intéressant sur le moyen long terme, parce que même s'il y a un ralentissement dans le luxe, ce n'est pas non plus la fin du monde. On notera aussi les chiffres de Sika qui sont sortis la semaine dernière. Alors, c'est des chiffres qui ont été présentés pour la première fois après l'intégration de cette division qu'ils ont rachetée à BASF il y a quelques temps. Donc forcément, c'est toujours très très compliqué d'analyser ces chiffres. Mais l'un dans l'autre, après avoir décortiqué ça dans tous les sens, c'était considéré comme plutôt une bonne nouvelle. Résultat sur l'annonce, Sika est quand même bien monté en toute fin de semaine. Et quand vous voyez le graphique de Sika, eh bien forcément, ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires puisque vous voyez cette journée assez spectaculaire de vendredi qui renvoyait le titre quasiment au plus haut de ces dernières semaines. Puisque l'on parle de résultats trimestriels, regardez ce chart. Eh bien, c'est Swisscom. Alors Swisscom, inutile de vous dire que les résultats n'ont pas été accueillis avec du champagne et des cotillons. Donc, mauvais résultat, déception chez Swisscom, downgrade en fin de semaine. Bref, tout y est. Le titre est passé de 560 francs à 530 francs. Alors, comme d'habitude, ben, Swisscom est un payeur de dividendes. C'est le titre le plus boring du SMI. En général, quand il est dans une tendance baissière, eh bien, il va aller chercher les bas de la tendance. Donc, normalement, si on prend un peu l'historique du titre, on devrait le voir redescendre relativement loin de sa moyenne mobile des 200 jours autour du bas de ce, ouais, ben c'est dans cette zone-là. Et puis, une fois qu'on sera par là, on pourra commencer à racheter pour se faire le nouveau trend haussier. Alors, perso, je déteste le titre, je déteste la société. Je suis pas du tout un fan et j'ai jamais réussi à gagner le moindre centime sur cette boîte-là. Mais on le voit par la force des choses que ça fonctionne très très bien en range. On va aller probablement croiser la moyenne mobile des 200 jours et des 50 jours qui va nous donner une dead cross. Ce qui va nous dire que Swisscom devrait aller un peu plus bas. Donc on en reparlera, on va dire, allez, on peut mettre une alerte autour des 475. Pour quand on sera par là, peut-être en se disant, c'est peut-être le moment de remettre les pieds dedans. Mais en attendant, comme disait l'autre, never catch a falling knife, ou ne rattrapez jamais un couteau qui tombe. Toujours dans la période des résultats, on parlera de Swissre qui a publié des bons chiffres, meilleurs que les attentes, surtout au niveau des sinistres, qui leur ont coûté moins cher que d'habitude, des bons résultats au niveau du placement. Alors les sinistres, catastrophes naturelles étaient moins violents, malgré ce qu'on peut voir à la télé, étaient moins violents que l'année précédente. Donc du coup, ça leur a coûté moins cher. Néanmoins, ça n'a pas forcément plu au marché. Alors moi, je dis toujours, Swissre, faut la jouer comme une action, presque comme une obligation, parce qu'aujourd'hui, vous avez du 7,18% de rendement sur le dividende. Donc vous l'achetez sur faiblesse, vous prenez vos dividendes, vous attendez et un jour vous reverrez votre argent ou vous gagnerez sur la performance mais en plus sur les dividendes. Pour le reste, l'interprétation des chiffres de Swissre en fonction de l'état des catastrophes naturelles et de la perception du marché, c'est toujours très compliqué à jouer. Donc jouez plutôt l'aspect dividende et concentrez-vous sur le long terme. Oui, je sais, le long terme c'est difficile parce que personne ne sait faire ça ou plus personne ne sait faire ça. Mais néanmoins, ça peut valoir la peine d'avoir ce genre d'action dans le portefeuille tant que le dividende reste ce qu'il est. Et pour l'instant, c'est le cas. Encore un autre exemple d'interprétation des résultats. Adecco qui a publié des résultats, on va dire, qui étaient qualifiés en tout cas de BOF, en trois lettres, B-O-F. Mais vous voyez que finalement, Adecco s'en sort pas trop trop mal cette semaine. Bon, il faut dire que là d'où elle revient, il y avait de quoi récupérer. Mais néanmoins, c'est vrai que les chiffres n'étaient pas extraordinaires en termes de croissance. Même s'il y a quand même pas mal d'engagement à droite à gauche pour ce qu'on voit dans les chiffres économiques, eh bien Adecco terminait une semaine relativement constructive avec des chiffres qui étaient quand même relativement timides, il faut le dire. Et puis on parlera aussi du combat fratricide du moment, puisqu'apparemment Genentech, qui est une filiale de Roche, a attaqué Sando, qui est une filiale de Novartis aux États-Unis, parce que soi-disant, ils auraient piqué simplement un brevet sur un médicament qui s'appelle l'Esbrite pour un médicament pulmonaire, un médicament de Roche donc. Donc Roche Genentech attaque Sando Novartis par rapport à ça. C'est vrai qu'autant se foutre sur la tronche entre Suisses, ce sera beaucoup plus constructif sur le long terme, bien évidemment. Bref, c'est aux États-Unis, donc comme ça se passe aux États-Unis, on ne sait jamais comment ça va se terminer. En termes de sanctions, ça n'a pas eu grand impact sur le marché cette semaine, mais il faudra quand même le retenir dans un coin de nos carnets de trading. Je terminerai encore cette émission aujourd'hui par quelque chose qui me tient à cœur, le pétrole. Alors aujourd'hui, on est tous d'accord de se dire que l'inflation est sous contrôle, que les banques banques centrales ont réussi à faire ce qu'il fallait faire, que tout va dans la bonne direction et que récession, il n'y aura pas. Par contre, alors de l'autre côté, eh bien, on a toujours un pétrole qui continue à se comporter de manière extrêmement spectaculaire. Alors, vous voyez, nous sommes à 83 et des poussières sur le WTI aux États-Unis. Donc, quand on regarde la performance du brut, eh bien, évidemment que c'est déjà spectaculaire pour voir la tendance que l'on prend en termes d'accélération. On arrive quand même gentiment à des niveaux de résistance qui sont assez intéressantes. Il faudra voir si on arrive à passer les 84$, mais ensuite, comme disait l'autre, la porte sera ouverte à toutes les fenêtres si on venait casser ça. Je vous laisse imaginer les impacts aussi sur la consommation énergétique dans le monde, pas uniquement aux États-Unis, mais dans le monde en général. Ce qui est assez intéressant, c'est que la semaine dernière, le pétrole a été relativement secoué pour terminer en boulet de canon, parce qu'encore une fois, l'Arabie Saoudite, qui n'est pas un petit joueur dans le monde du pétrole, a confirmé son intention de couper, de continuer à réduire sa production pétrolière pour maintenir les prix à un niveau correctement relativement élevé. Et puis, en plus de ça, on notera aussi qu'aux États-Unis, les inventaires sont en chute libre. Donc ça veut dire que les réserves pétrolières globales que les Américains ont à disposition sont en train de fondre comme neige au soleil. Donc s'ils ont besoin de les remplir, surtout pendant l'été où beaucoup de gens conduisent, beaucoup de gens roulent, on appelle ça la driving season aux États-Unis, eh bien il va falloir quand même remettre du pétrole dans les réservoirs. Et donc en allant en acheter beaucoup plus ailleurs, on ne va pas forcément aider à faire baisser le prix. Donc potentiellement, eh bien ça pourrait faire monter le prix aussi encore un peu plus haut. Et le problème, c'est que si le prix du baril il monte, le prix de l'essence il monte, et je rappelle quand même, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, qu'aujourd'hui le prix du plein d'essence du gasoline aux États-Unis est au plus haut depuis le mois de novembre. Donc ça fait très longtemps qu'on n'avait plus eu des prix pareils au niveau de l'essence. Et donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il pourrait y avoir quand même une toute petite répercussion sur la problématique de l'inflation. Bah oui, forcément, hein, si vous commencez à claquer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent dans votre réservoir d'essence, bah du coup, il va falloir couper les dépenses ailleurs. Et donc ça, c'est pas forcément très très bon pour la croissance économique. Mais en même temps, il y a aussi le fait que le pétrole fait partie du basket qui pousse aussi l'inflation à la hausse. Donc on est en train de se retrouver dans une situation quand même assez épique, puisque finalement tout le monde nous dit « oui, c'est bon, l'inflation est sous contrôle », mais à côté de ça, vous avez le baril qui est en train de partir à toute vitesse, pour l'instant. Alors je changerai d'avis si tout d'un coup, la semaine prochaine, on termine la semaine à 72$, mais pour l'instant, à 83$, on peut commencer à se poser des questions. Et ce qui est fou, assez fou, en mon sens, c'est que personne n'en parle. Oh, peut-être que je suis le seul idiot à voir que le pétrole continue à monter et que ça pourrait poser un problème à un certain moment. Mais pour l'instant, on parle d'inflation, de contrôle, de maîtrise des banques centrales. Mais le pétrole, tout le monde s'en tape. Et pourtant, il continue à monter. Voilà ce que l'on pouvait dire pour cette semaine qui aura été assez spécifique pour moi. Je vous raconterai mes histoires de voyage une autre fois. Mais enfin, pour l'instant, toujours est-il que je suis de retour dans une configuration à peu près normale. Donc, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, parce que je suis de retour pour de vrai, comme d'habitude, dès lundi matin. Et passez une excellente journée, profitez bien, bon trading, bons investissements. Et je me réjouis déjà de vous retrouver lundi matin en pleine forme. Bye bye.